Il est 20h, vous êtes sur Campus Paris. Restez à l'écoute sur le 93.9. La journée ne fait que...
Silence, on tourne. Moteur.
Odissée à 14702 prima.
Avanti.
Azione.
Hey, moi. 如果有多张船飞，你会唔会同我一齐走？
Extérieur nuit.
Extérieur nuit.
The way of the samurai is one of immediacy, and it is best to dash in headlong.
जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो.
Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce nouvel Extérieur Nuit, l'émission hebdomadaire toujours, encore, continuellement consacrée aux sorties du jour. Donc le mercredi, c'est le cinéma, comme nous l'ont appris nos parents chéris. Donc, cinéma, sortie ciné.
Du temps de nos parents, c'était le lundi, si je me souviens bien.
Ah bon ? Ça date de quand, ouais, mercredi ?
Je pense que ça fait une quinzaine d'années, peut-être 20 ans, mais...
C'est fou ! Donc ça n'existait pas comme ça depuis toujours,
ouais. Il me semble, hein, je...
Voilà une,
on
vraie,
vérifiera pour
voilà
la semaine
une
prochaine.
Vraie question, et la semaine prochaine vous aurez la réponse. Depuis quelle date précisément les sorties de cinéma se font-elles le mercredi, et pourquoi ce choix étrange après tout, effectivement, pourquoi pas le lundi comme tout le reste. Bref, donc débat de fond pour la semaine prochaine. Mais pour commencer aujourd'hui, donc on peut déjà constater une actualité cinématographique complètement foisonnante qui prend des allures d'objets hybrides, protéiformes. Bon, à une époque, il y avait les gros films américains et puis les petits films indépendants européens avec un film portugais de temps en temps. Puis alors là, en ce moment, il y a des films fous, il y a des documentaires sur George Michael, il y a des films portugais, transsexuels, homosexuels, avec plein de choses très spéciales qui se passent dans le film. Tout sort en même temps, et des gros films américains sur la guerre en Irak. Enfin bon, on ne sait plus où donner de la tête, tellement l'actualité cinématographique est fascinante d'étrangeté. Donc c'est très bien. Pluralité est reine. Donc on va essayer d'aborder un petit peu tous ces aspects ce soir, hein. Je vous évoquerai rapidement donc un docu sur George Michael, ODT de João Pedro Rodrigues, que je ne dirai pas avec l'accent portugais parce que je ne peux pas l'imiter, c'est inimitable. Deux, trois films complètement bis, petit plaisir de Vincent. Et un film français qui a plutôt séduit ici. Donc Vincent et Grégoire sont avec moi ce soir pour évoquer tout ça. On n'est pas nombreux, ça va être une émission assez intime, assez cosy. J'espère que vous allez parler à cœur ouvert, hein. Je suis là, je vous écoute.
On va essayer.
On va faire un peu comme Macha Béranger, je vais être votre confesseuse. Voilà, donc ce soir, sur Radio Campus Paris, vous allez avouer tout ce que vous avez pensé de ces petits films. Et pour commencer, un film français donc... De, tenez-vous bien, enfin moi en tout cas quand j'ai lu le nom de la réalisatrice j'ai failli m'effondrer, Isabelle Mergo.
Oui, la Isabelle seule, Mergo. Moi aussi, on va dire que j'ai lu son nom sur la fiche du film, quand je me dis c'est pas la même, il y a un souci quelque part. Non,
parce
c'est
qu'elle était dans une émission de radio absolument débile, c'est ça.
Alors, oula, tu remontes à très loin, donc les grosses têtes.
Voilà,
mais
c'est
ça. Mais depuis,
elle
a rejoint la bande à Ruquier et elle est autant à la télé qu'à la radio qu'au théâtre. Donc c'est assez surprenant de la voir débarquer avec un film dont elle est la réalisatrice et la scénariste, mais pas, elle est pas comédienne, non, elle est pas actrice. Donc c'était un objet, au moins, il y avait de la curiosité.
Voilà, et donc ça s'appelle « Je vous trouve très beau », et c'est avec Michel Blanc dans le rôle principal, hein, donc une association très, très étonnante, on pourrait dire. Donc moi, je l'ai pas vu, j'ai eu un peu peur, effectivement. Donc ça se passe dans une ferme, dans le milieu rural, où Michel Blanc est un jeune veuf, enfin, il est pas jeune, mais il est veuf depuis peu, et il se dit qu'il est un peu tout seul et que c'est trop dur de reprendre la ferme. Donc un sujet presque pour France 3 Télévisions, mais non, puisque Isabelle Mergo est à l'ouvrage. Qu'est-ce que ça donne, ce croisement des cultures?
La curiosité m'a amené donc à voir le film, et j'ai été plutôt surpris parce que c'est quelqu'un, enfin Isabelle Mergo, c'est quelqu'un qui est assez extraverti, assez excessif dans ses blagues, dans son humeur.
C'est un peu la rigolade de service.
Voilà, donc on se demandait, rien que l'affiche donnait une drôle d'impression, c'est très simple, comme tu dis, c'est la campagne. Et donc j'ai employé le terme de simple et ça résume énormément bien le film, dans le sens où tout est empreint de simplicité. À savoir, pour son premier film, elle n'a aucune prétention. Donc il faut le voir dans ce sens-là. C'est une comédie douce, amère, une histoire d'amère douce, amère aussi. Tout est sur ce ton-là. Et donc le film s'est fait un peu descendre. Je ne sais pas en trop pourquoi, peut-être par sa filiation avec Isabelle Mergo, on verra ça.
Il y a quand même des a priori terribles avec
tout
elle.
Tout à fait. Et donc en fait, dès le début, dès le décor, donc cette campagne à la fois isolée, à la fois bucolique, dans le sens où il y a un petit village, mais on le voit pas souvent. On reste vraiment, vraiment ancré dans la ferme. Et donc ça, c'est assez surprenant. Ces mouvements de caméra pour nous faire découvrir cette campagne sont très simples. Pas très non plus intéressant, mais il y a ce côté, c'est pas vraiment carte postale encore, donc il y a un côté réaliste, il y a un côté carte postale, elle joue sur cet équilibre, c'est assez séduisant, ça réveille pas non plus notre instinct cinéphile ou esthétique d'esthète, mais bon, ça fonctionne. Et donc là apparaît Michel Blanc, et on peut dire ce qu'on veut, dans le rôle du fermier bougon, il est exquis, il faut dire ce qu'il est.
Un fermier bougon exquis.
Dans le sens où, voilà, c'est très bien, le film est très bien écrit, les blagues ou les vannes sont pas toutes sur la même corde, mais c'est assez fin. Et moi, j'en résume une qui représente le film. Quelqu'un qui s'adresse à Michel Blanc qui va dire « Tu vas mourir sur ton tracteur comme Molière ». Moi, je trouve ça, voilà, je trouve ça
c'est
assez...
C'est une blague du film.
Voilà, moi, je trouve ça assez séduisant. C'est toujours sur ce décalage, donc, sur entre peut-être la campagne et l'intelligentsia parisien. Mm-hmm. Ça joue pas trop non plus sur cette corde. Donc, c'est assez surprenant. Mais plus encore, c'est sur la rencontre donc avec l'actrice roumaine qui joue, bien sûr, une roumaine dans le film, qui s'appelle Medea Marinescu, je crois. Ouais, c'est bien ça. Exactement. Et en fait, c'est vraiment elle, pas qui lui vole la vedette, mais qui crée vraiment la surprise, parce que elle est, voilà, elle est généreuse dans sa manière de jouer.
Et ouf, j'ai cru que t'allais dire dans ses formes.
Aussi, tu peux le voir aussi comme ça, mais c'est vraiment dans son jeu, et leur alchimie est immédiate. Donc on se dit, elle est peut-être pas bonne metteur en scène, Isabelle Mergo, mais elle est peut-être bonne directrice d'acteur. Donc ça, c'est assez intéressant.
Donc déjà, elle a quelque chose à sauver peut-être.
Oui, tout à fait. Donc moi, c'est ça que j'ai saisi, voilà. Et en fait, le film se découle, voilà, comme c'est très doux, comme au long d'une rivière, quoi. On va dire, faut pas se prendre la tête, c'est tout simple. Faut pas avoir non plus, en tant spectateur comme elle, en tant que créatif, faut pas avoir trop de prétentions par rapport à ce film-là. Il faut aller le voir comme une bluette plutôt bien ficelée. Bien sûr, la morale est sauve à la fin. Ils ne s'aiment pas au début, ils s'aimeront à la fin. Mais voilà, j'ai encore grillé la fin du film. Mais bon, là, je pense que c'est comme pour Titanic.
Là,
je vais pas
je
trop.
Crois que t'es un peu
je vais pas trop. Ça va pas trop embêter les gens parce que ça se voit comme voilà.
Donc ça, ça se voit comme on lit des petits romans d'été, quoi.
Ouais, exactement. J'ai pas trouvé de métaphore pendant toute ma critique, mais je crois que tu as bien résumé le film.
Parfait. Donc là-dessus. Sur ce trait de génie de ma part, nous allons écouter un petit peu de musique pour nous remettre.
Trying to read.
Retour dans Extérieur Nuit, où nous écoutions les fabuleux Animal Collective. Parfait morceau pour introduire un non moins fabuleux film que moi j'adore, mais qui fait débat ici autour de cette table. Donc Grégoire et moi l'ont discuté, c'est Odette. Odette, si on veut prendre un accent quelconque. Odette, en tout cas, de João Pedro Rodrigues. Je vais arrêter les accents. Hein. Donc Odette, c'est un film portugais. Avec un personnage fabuleux, donc le personnage titre, Odette, qui est une jeune femme magnifique qui travaille dans un supermarché. On la voit en patin à roulettes, vous savez, ces jeunes femmes qui courent d'un prix à une caisse pour aider tout le monde. Donc c'est une petite fée à patin à roulettes qui rêve d'avoir un enfant. Et son homme, lui, n'en veut pas, donc ça se passe très mal au début du film pour le couple. Et lorsque le voisin d'Odette meurt, et le voisin d'Odette, c'est un jeune homme homosexuel qui vit une relation depuis très longtemps avec son amoureux, il meurt d'un accident et elle se croit enceinte de cet homme qui n'avait rien fait pour qu'elle soit enceinte, ils n'ont jamais été ensemble, et elle s'imagine cette grossesse, elle se la rêve, elle se la fantasme, et elle y croit tellement que son ventre se met à pousser. Alors, magie, grossesse nerveuse, plus scientifique ou autre chose encore, rien n'est éclairé. On est dans l'extrême sentiment, enfin dans une exacerbation des sentiments, dirais-je, propre pour moi à un certain Douglas Sirk, dont Rodriguez se revendique assez clairement. Et voilà, donc le film tisse cette histoire entre cette femme qui revendique un enfant et toute la communauté autour d'elle qui lui refuse. L'amant donc du mort lui dit non, c'est pas possible, et il la déteste. La famille du mort refuse aussi d'admettre ce fait qui est inadmissible, donc c'est un mirage de la vie. Et donc elle va y croire tellement fort que donc des choses vont se produire qui peut-être ne devraient pas ou ne pourraient pas se produire. Donc Grégoire, toi, je crois que ça t'a pas emballé complètement dans cette folie que
les absents qui ont toujours tort ont encore moins aimé le film que nous deux. Moi, ça m'a pas vraiment marqué. Je m'attendais beaucoup de ce film parce que j'avais beaucoup aimé Au Fantasma, le premier long métrage de Juan Pedro Rodriguez.
Oui, arrêtons aussi, ce soir parce que là
les accents. Et là, effectivement, j'étais un peu déçu parce que le film est constamment, j'allais dire presque en porte-à-faux dans l'histoire que tu nous as racontée. Il y a cette histoire donc de grossesse. Odette y croit tellement que ça arrive. Et nous, on est, enfin, en tout cas moi, j'ai été aussi parfois tenté d'y croire, parfois je n'y croyais plus, constamment ballotté comme ça par le scénario. Et j'avais l'impression que le film est aussi là-dedans, dans un esthétiquement, donc il tourne un petit peu effectivement vers le mélodrame. Il y a des scènes très hyper réalistes avec des couleurs dans le cimetière où ça, il filme ça de façon très, enfin, très très cru et à la fois métaphorique, enfin dans un style de mélodrame un peu.
Oui, c'est référencé Hollywood, quoi.
Oui, c'est référencé Hollywood. Il y a le personnage d'Odette, en fait, représente à mon avis une espèce de rêve américain dépassé quand elle est là sur ses rollers. Il filme ses jambes qui sont magnifiques d'ailleurs. Elle a son petit porte-monnaie Snoopy, etc. Et à côté de ça, il y a le monde moderne, parce que les deux principaux incidents du film, l'accident qui mène à la mort de Rui, je crois, La rupture entre Odette et son ami se font par SMS et par portable finalement. Mmh. Donc j'ai l'impression aussi que le film était entre deux époques, hein, le rêve d'une époque que même Juan Pedro Rodriguez n'a pas dû connaître et celle qui rêve un peu. Et puis il y a aussi un soupçon de fantastique qui arrive à la fin par l'intermédiaire d'une bague qui semble guider d'abord Odette et puis finalement un peu tous les personnages qui gravitent autour d'elle. Donc c'est un film qui m'a plutôt déstabilisé et donc j'ai du mal à catégoriser, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il y a de très très beaux, il y a un beau personnage, Odette est vraiment un très beau personnage.
Voilà, moi c'est ça que je trouve, qu'elle est très attachante. Le film n'est pas une réussite totale, enfin on sent des faiblesses effectivement pendant le film, des scènes qui se répètent peut-être un peu trop, un rythme qui faiblit par moments, justement quand Odette elle-même commence à douter, enfin il y a peut-être un ventre mou dans le film, mais qui note en rien l'espèce de magnificence qu'il atteint dans certaines scènes, enfin entre autres la scène du crash de voiture au début du film, quelque chose d'absolument fabuleux. Les deux personnages, les deux amoureux sont tous les deux au téléphone en train de se parler. L'accident se passe à ce moment-là, donc il y a une espèce de simultanéité. On découvre l'accident. Enfin, il y a une violence comme ça qui arrive. Au personnage qui n'est pas avec son amoureux et qui l'entend mourir, enfin, il y a des idées comme ça assez fabuleuses au niveau de la mise en scène aussi, et donc des scènes, une beauté picturale dont tu parlais tout à l'heure, qui font que pour moi Odette est un film très très marquant. Enfin, moi, je l'avais, enfin à Cannes quand il était passé, au milieu de beaucoup de films qu'on voyait, celui-ci pour moi m'avait complètement happé par cette originalité, cette façon complètement tordue de tenir des personnages sur rien. Écrit sur du vent, pour revenir à un titre de Douglas Sirk, on va faire par métaphore de Sirk. Mais c'est vrai que c'est encore ça, c'est toute la force du sentiment. Mais du sentiment qui peut être biaisé, qui peut être complètement faux, illusoire, mais la force du sentiment. Et c'est ce qui tient le film du début à la fin. Et moi, ça, j'y ai complètement adhéré. Donc voilà, donc j'adore Odette.
Voilà, donc c'était Odette de João Pedro Rodriguez.
Voilà, merci Grégoire de m'aider à finir. Et nous allons continuer avec ce qui semblerait être...
Le film de la semaine.
Voilà, je dis semblerait parce que je ne l'ai pas vu, encore une fois, je suis fautive.
Je suis le seul encore. Ah, pardon, oui.
C'est donc Jarhead, un film de Sam Mendes qui avait commis American Beauty, qui, à mon avis, restera
commis,
pas.
Commis est le terme.
Voilà.
Commis et Les Sentiers de la Perdition. Je serais moins catégorique que toi, mais je vais y revenir.
donc, ce Sam Mendes-là, qui a fait donc des films très américains. Se lance dans le film de guerre comme Lord of War il n'y a pas si longtemps, ou le précurseur à mon avis qui était Les Rois du Désert, et qui reste à mon avis inégalé pour l'instant dans la vague de films qui vient en ce moment. Donc Jarhead, un film saga, on en parlait aussi il y a deux semaines de cette saga film de guerre, beaucoup plus politique, beaucoup plus revendicatif qu'à une grande époque hollywoodienne. Là c'est pas forcément un film hollywoodien, mais c'est quand même produit par les États-Unis, et donc ça traite de la guerre d'Irak. Vincent,
on va résumer ça comme ça. En fait, il y a l'affiche dit la guerre c'est l'enfer, la tente c'est pire. On va dire que ça ressemble à ça. C'est une bande de potes Marines qui attendent de dézinguer l'Irakien. On va dire ça comme ça. Et donc Sam Mendes, bon, on lui doit American Beauty, comme tu dis, ça a été une réussite au niveau du public, mais plus par son scénario qui a été signé par l'auteur de Six Feet Under, la série, que par lui qui était plutôt un metteur en image. Sentier de la Perdition a confirmé ce sentiment, dans le sens où c'est une très pataud d'adaptation d'un comics américain. Et donc avec Jarhead, est-ce que c'est devenu un cinéaste engagé?
Ah, question, réponse.
Voilà, bah la réponse est que en fait ça reste un metteur en image. Ce qui n'est pas non plus une catastrophe. Donc je vais y revenir un peu parce que je crois qu'on a des propos du monsieur. Ce serait bien
voilà,
de commencer par ça.
Donc Julien l'a rencontré et nous allons écouter quelques extraits de son entretien avec Sam Mendes.
Même si la vague de films politiques qui atteint actuellement la France donne à Jarhead un caractère d'évidente et attendue critique de la guerre en Irak par Hollywood, il n'a pas été facile d'imposer un tel sujet à un studio aussi grand qu'Universal. Pourquoi ? La réponse par son réalisateur Sam Mendes.
It's an unusual film to greenlight at the moment. You know, it's expensive, and it's not entirely positive about America and the Middle East. And it's also not a conventional war movie. Even within that, there's no explosions, and there's no easy way out, and there's no thrills and spills in the way that there is in a traditional war movie. So, on all those levels, it was very. You know, I was asking them to fund a kind of $60 million. meditation on war at a time when we're at war and the war is constantly changing. So it was difficult for them. Yeah, I tell you what really helped us was that Ron Meyer, who's the chairman of Universal, is an ex-Marine.
Okay.
And for him, this was a very, very accurate rendition of what it felt like to be at war, because so much of war, as perceived by the media and in movies, you know, for example, you watch them watching Apocalypse Now, you know, is things happening all the time, happening, action, you know, events. And this movie is about boredom and waiting and frustration and how you get caught up in the details of military life, and that war is no longer heroism or acts of heroism. It is, getting by, you know.
Bon, très bien, mais dans un pays comme les États-Unis, et surtout dans une industrie cinématographique au canon si bien calibré, comment rendre ce sujet attractif?
It has to hold your interest. It has to be entertaining, whatever that means. But it's a dangerous word to use, entertaining, when you come to a war movie, because war is not entertaining. It should be gripping, you know, it should be an experience. But entertainment is a dangerous word, because it makes it sound like you're making light of the war. And I didn't want to make light of it. But somehow I also wanted to acknowledge that these guys are funny, you know, they're witty, and there's a lot of unintentional humour that comes out of these situations, because in one sense it's preposterous, you know, to go to war in the middle of nowhere and find themselves without even knowing what the enemy looks like. And but you also build it on themes, you know, you build it on a theme of, you know, how someone who does not want to be a Marine and ultimately is sceptical of the Marines, how he is taught how to kill and how to make killing his purpose, and then how it is taken away from him and how it frustrates him, and how then but then when he gets home, how he realizes that by having the killing taken away, he has somehow survived. So all of those things, that's sort of the story. It's a rites of passage, it's a journey towards understanding, it's a journey from innocence to experience, you know. Obscure Object of Desire is exactly the same in certain ways as this movie. You know, it's about dangling the possibility of the war in front of the audience and then never quite being able to achieve it, you know, and the desire, the need to achieve it, to find the war, it's just the same as the need to sleep with the woman in Obscure Object of Desire, which is that thing of, you know, it makes you aware of your desire, and aware of your desire in this case for the kill, you know, for the catharsis of a traditional war and traditional war movie, and it won't allow you that. What I loved about the material.
On l'aura compris, Buñuel, Mendes, même combat philosophique sur un objet différent toutefois, mais quand même, ne serait-ce pas une charge politique anti-Bush un peu facile?
It's a very political movie, but it's not political in the conventional sense of the word. It's not political like party politics. You know, it's not about Republican or Democrat. It's not about whether we should or shouldn't be. The men do not concern themselves with whether we should or shouldn't be in Iraq now. You know, they don't even know the names of the politicians, most of them. Personally, I'm extremely against what the government is doing at the moment. I think that it's crazy to be in Iraq, and I think it's a disaster. However, what I thought was interesting about this story was that it uses the first Gulf War. If you look at it carefully, you can see it as a metaphor for all of our experiences in the Middle East over the last 15 years. Not literally, not in the sense of the way the war is, but the metaphor of these men always, the enemy always slightly out of sight, always reaching and never getting there, always approaching the answer but never reaching the answer, and the sense in which they feel that somehow they're going to reach a conclusion in the Middle East and that everything's going to make sense. But, you know, the truth is it's a mess, you know, and it's not going to make sense, and they're searching for something that they'll never find, and that's still true.
Alors, pour les non-anglophones, Grégoire va nous faire un petit résumé rapide.
Oui, un petit résumé. D'abord, Sam Mendes dit que c'est effectivement un film de guerre hollywoodien, mais pas au sens des films de guerre hollywoodien, parce qu'il a peu d'explosions, il a pas d'action vraiment. Mais ce qu'il aime bien, c'est qu'il a un personnage de marine qui fait vraiment ressentir ce qu'est la guerre quand on la vit, c'est-à-dire c'est beaucoup d'attentes, beaucoup d'ennuis, et que finalement ce qu'on ressent comme des événements, c'est les soucis quotidiens, les petits événements du quotidien. Ensuite, il a essayé de pas faire un film d'entertainment, donc pas trop un film du samedi soir finalement, parce que il voulait pas montrer que la guerre c'était drôle, parce que la guerre c'est pas drôle, mais en même temps il était un peu tiraillé parce que les soldats sont peuvent être drôles quand ils sont entre eux, quand ils vivent entre eux. Donc il avait ce côté-là et il était intéressé par le personnage du soldat qui se retrouve soldat sans vouloir l'être et qui finalement est content à la fin parce que la guerre a été évitée d'avoir eu cette expérience et d'avoir évité d'avoir à tuer. Et il a aimé montrer la possibilité du guerre, donner au public que le film était toujours, la guerre pouvait arriver, mais que finalement la guerre n'arrivait pas. Et donc finalement il traite un peu du désir du public en même temps que du désir des soldats d'avoir la guerre. Et enfin, il disait que le film n'était pas politique au sens d'une politique de parti, mais qu'évidemment ce film était politique sur, comme on dit, quelque chose qui est politique en français. Et il a apprécié de pouvoir traiter de la première guerre du Golfe, et donc d'avoir un petit peu 15 années de recul pour montrer que ce qui se passait maintenant est quand même assez proche, voire très proche de ce qui se passe dans son film.
C'est un peu le même postulat donc, que Les Rois du Désert, qui traitait aussi de la première guerre.
Comme tu l'as dit, on parle de cinéma non spectaculaire, donc c'est plus Lord of War et Les Rois du Désert. Sauf que Les Rois du Désert, c'était très caustique, c'était très ironique.
C'était
même
un film de David O. Russell.
Voilà, tout à fait.
Préciser.
C'était tellement impressionnant dans l'humour, dans la manière dont il y avait une vraie mise en scène, par contre, là.
Ouais.
Et par contre, il y avait un petit peu de morale sur la fin, un petit peu gênante, je trouve. Et Lord of War, on l'a parlé la semaine dernière, on a montré que c'était tiraillé entre le documentaire et la fiction un peu malsaine.
Ouais.
Et bah là, il fait bien ses devoirs, Sam Mendes, et je pense que Julien a bien pointé la chose. Est-ce que c'est pas un peu facile comme attaque envers vous? Voilà, c'est le problème du film, c'est qu'il veut, d'une manière ou d'une autre, dénoncer quelque chose, que ça soit l'attente de la guerre ou que ça soit la politique américaine.
C'est pas nous qui allons lui reprocher ça.
On va pas lui reprocher ça, mais le problème, c'est que cette attaque en règle est représentée par un seul personnage. Et pas le héros en plus, un personnage secondaire.
Héros, il est content au lieu de faire la guerre, c'est ça?
Il est pas content, il est un peu, c'est celui qui est donc là et qui ne voulait pas faire la guerre. Et on n'a pas vraiment son point de vue. C'est par rapport à ses camarades que les points de vue différents se mettent en valeur ou pas. Et donc c'est représenté par un seul personnage qui d'un coup, au milieu du film, on sait pas pourquoi, dit oui, mais est-ce que, et il commence à déblatérer, je sais pas pendant combien de temps, c'est la guerre, c'est bien, c'est pas bien.
Il fait un discours politique adressé
voilà.
à George.
Et ça, j'ai trouvé ça très peu délicat. Et en fait, donc là on pense plus très rapidement à Full Metal Jacket, je suis désolé de la comparaison, je vais arrêter assez vite, dans le sens où il reprend exactement la même scène de « ils sont interviewés par une télé ».
Ah oui.
Alors là, je me suis dit, il va pas aller jusqu'... Eh bah si, il le fait. Et donc il essaye de retirer quelque chose et ça fonctionne pas non plus. Et c'est là le problème du film, c'est que c'est... Tu te parlais qu'il faisait des films trop américains, et bah c'est un peu ça, c'est trop facile.
J'ai pas dit trop américain, mais bon, très américain.
C'est très américain, là je suis assez d'accord, c'est très américain, c'est très facile, c'est très appuyé par moments. Et vous voyez là ce que je veux dire.
Il appuie,
voilà. Par contre, dans le reste du temps, il fait un sacré portrait de groupe en fait. Donc cet ennui dont il parle, cette drôlerie des Marines est assez bien rendue, pas grâce encore une fois à sa mise en scène, mais grâce vraiment aux acteurs qui sont vraiment formidables. Je pense à Jamie Foxx qui est devenu une star et qui pourtant a un rôle secondaire et qui marche très bien, et surtout Jack Gyllenhaal, je sais pas comment on dit, qui lui est vraiment formidable.
Le Wonderboy américain.
On va le retrouver, je crois que c'est la semaine prochaine dans Brokeback Mountain, et on va encore allonger les louanges. Donc moi je le trouve vraiment, vraiment, vraiment formidable. Et il y a certaines scènes d'ennui, enfin représentation de l'ennui, qui sont assez intéressantes, et surtout. Je disais
pour
que c'était un metteur en image. Qu'est-ce que c'est beau! Le film est magnifique, la lumière.
Quoi, qu'est-ce que c'est beau, la guerre? C'est ce
non,
que tu es en train de dire.
Qu'est-ce que c'est beau, les images? C'est peut-être aussi un souci, mais comme il parle pas de guerre, on va dire, allez, qu'est-ce que c'est beau? Vraiment, parce que dès qu'ils arrivent sur les puits de pétrole, on se dit, mais comment a pu-t-il dresser des tableaux si flamboyants?
Oui, c'est comme l'image, comme l'affiche, je veux dire, avec
voilà.
Les puits en flou.
Ah, mais il y a même des scènes encore plus impressionnantes, c'est-à-dire, il y a des puits de pétrole sur eux, et chaque plan est une œuvre vraiment magnifique avec une très belle musique, etc. Et là, quand on les voit se trimballer au milieu de ce désert noir ou en feu, moi je suis resté ébahi, et ça dure quasiment 20 minutes dans le film où il y a quasiment pas de dialogue ou alors très peu, et je trouve ça vraiment magnifique. Donc on peut se laisser bercer par ce doux ennui. Nous on a le plaisir des images, eux l'avaient peut-être pas, donc voilà.
Merci Vincent, donc notre film de la semaine, mais sous réserve, donc à voir et à réfléchir surtout. C'est Jarhead de Sam Mendes qui sortait aujourd'hui. Et on enchaîne sans plus attendre sur un film qui n'a rien à voir, qui est aussi américain, je pense.
Ou anglais plutôt, je crois.
Anglais ? Oui, sans doute d'ailleurs, parce que George Michael n'est pas américain, il est anglais. Et donc, George Michael, mon histoire, je dois dire qu'on l'attendait tous, hein. Il était temps que les choses soient enfin révélées. George Michael nous raconte sa vie, et c'était juste ce qui nous manquait avec l'Irak, hein. Donc c'est pour ça qu'on les a mis l'un à côté de l'autre, on s'est dit la transition est évidente. Donc c'est réalisé par Suthan Morris, je ne sais même pas ce qu'il a pu faire avant, c'est d'être un documentariste très réputé. C'est donc un documentaire, un vrai, qui nous compte la carrière, la vie, l'œuvre, les souvenirs, la mémoire et la vie.
Voilà, donc c'est son histoire, mais c'est pas vraiment son histoire parce que c'est pas lui qui la raconte, c'est pas lui qui a, on va dire, enclenché le projet. Donc c'est quelqu'un qui, je sais pas s'il est documentaire réputé, du moins il a fait ce documentaire-là. Il l'aime, George Michael, ça se ressent. Et c'est à la fois une histoire et à la fois un bon coup de publicité ou une bonne promotion.
Pour son prochain album ?
C'est un peu dans ce sens-là. C'est le problème du film, c'est que c'est en deux parties. Il y a une première partie que j'ai trouvée vraiment extraordinaire. Je le dis parce que c'est, on vit vraiment avec les témoignages. Donc c'est très BBC, hein, comme petit documentaire, des témoignages, une voix off, des interventions d'amis avec des images d'archives, de clips, etc. Et donc on voit de ce tout début à quand il envoie sa maquette, même avant, je m'en rappelle même plus, à ses premiers succès chez Wham, dans le groupe Wham. Et donc en fait on est bercé par cette histoire-là.
C'est très rigolo et, aussi hein, d'avoir voilà, ces images-là.
Et c'est ça qui est génial, c'est que même lui, le point de vue de George Michael, son regard sur son ancienne carrière est infiniment drôle, à la fois enthousiaste, drôle, sarcastique et un peu ironique. Et donc vraiment on se retrouve vraiment enchanté quand ça veut être un peu, quand il parle de la mort par exemple de son premier petit ami, c'est vraiment assez dur parce qu'on le ressent à travers, c'est très manipulateur peut-être au niveau des sentiments, mais ça fonctionne très bien. Quand il parle de son homosexualité, c'est toujours fait avec beaucoup de décence, le mot n'est jamais prononcé, et pourtant après quand on
quoi,
voit
quoi, son... c'est pas indécent de dire homosexuel hein.
Non, pas du tout, mais là il travaille là-dessus parce que qu'après il a été surpris dans les toilettes donc d'un parc public, et c'est là qu'il a dû révéler son homosexualité à travers un clip. Et donc il y a tout ce travail de lui, on apprend sur le personnage, ou si on n'apprend pas, on revoit tout très rapidement en une heure, on revoit sa carrière, on se rend compte à quel point c'est quelqu'un qui a un peu le cœur sur la main, mais il a aussi sa carrière sur la main. Donc c'est la dernière partie du film qui veut nous convaincre
d'acheter son nouvel album
et qui veut nous justifier ses choix, à savoir anti-Bush, alors que moi je me rappelais même plus qu'il avait été anti-Bush à une époque, sur ce que son nouvel album qui vient de sortir chez une nouvelle maison de disques est un chef-d'œuvre autant que les précédents, alors que il marche du tonnerre, alors que moi j'entends pas du tout parler. Donc là on tombe dans
Suis quand même, hein. Là tu fais exprès
un petit peu, mais par rapport à ses carrières précédentes et à ses albums précédents, que ce soit chez Wham ou en solo. Donc là ça crée une distanciation, du moins chez moi en tant que spectateur, et les autres qui étaient dans la salle aussi, qui est un peu désagréable. On veut nous convaincre de quelque chose alors qu'il suffisait de nous montrer des images comme ils avaient fait dans la première partie. Et là c'est le film pêche un peu, mais rien que pour la première heure et revoir toute cette nostalgie, même qu'on ait 20, 15 ou 35, qu'on ait vécu ça ou pas, c'est assez enthousiasmant. Et moi j'ai trouvé ça vraiment tout à fait enchantant, voilà.
Donc, en chantant, c'est joli pour George Michael. Merci Vincent, et donc toujours en chantant, nous écoutons les Arctic Monkeys. So there's that girl there. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know. Said he's a scumbag, don't you know? Although you try it.
I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
Nous voilà de retour dans Extérieur Nuit après les Arctic Monkeys. Et en très bref, Vincent, tu vas nous parler de deux films que tu es allé voir, car toi tu vas tout voir contrairement à nous, et qui sont deux films américains d'ailleurs. Le premier, c'est La Rumeur court avec Jennifer Aniston, pas besoin de la présenter, tout le monde sait qui c'est. C'est le nouveau Rob Reiner quand même, réputé tout ça, sur l'histoire d'une jeune femme qui met sa vie entre parenthèses, je lis platement le résumé d'Allociné, avouons-le, et qui veut retourner dans sa famille parce qu'elle croit qu'il y a des secrets dans sa famille et qu'en fait le lauréat serait, l'histoire du lauréat, vous savez, serait basée sur sa famille à elle. Voilà, donc rapport entre le lauréat et sa propre vie, sujet un peu étrange. Et en fait, et donc j'enchaîne sur l'autre film et tu vas après développer à ta guise. Le deuxième film dont tu vas nous parler, c'est La Crypte, un film fantastique. Je pense que juste le titre veut tout dire, La Crypte, voilà. Film d'horreur américain de Bruce Hunt. À toi, Vincent.
Voilà, deux films qui ont en commun une grosse campagne d'affichage, dont l'une qui peut donner envie d'aller voir, à savoir La Crypte, et l'autre qui est totalement hideuse, à savoir La Rumeur court, pour des résultats complètement inverses. Donc La Crypte, on va dire que si on se souvient bien, il y a quelques mois, il y a un film qui s'appelait The Descent qui était sorti.
Qui était très bien.
Qui était très bien et qui pouvait lancer, je sais pas moi, une nouvelle mode des films de caverne. Et bah La Crypte, et bah il finit, c'est le deuxième, et bah il met terme à cette.
Oui, mais The Descent était anglais et La Crypte voilà. Est américain peut-être.
Tout à fait, The Descent est sorti donc en octobre, et pas encore aux États-Unis d'ailleurs, alors que La Crypte est sortie en août aux États-Unis. Donc eux ils vont avoir le mauvais en premier, le deuxième.
Tant mieux pour eux.
Voilà, et nous c'est l'inverse. Donc La Crypte. C'est la même chose que The Descent, en moins bien. On peut dire ça comme ça. Je crois que si tu veux, je résume à ça parce que c'est mal filmé. Des fois, on comprend rien à ce qui se passe. L'histoire est pas du tout intéressante. C'est encore une histoire de bestiole, voilà, dans une grosse caverne. The Cave en anglais, là, donc la caverne.
Donc autant conseiller aux gens d'aller voir The Descent, qui doit sans doute passer encore dans une salle ou deux à Paris.
Sinon, l'idée devrait pas tarder. Et donc, La Rumeur court, nouveau Rob Reiner, quand même, quand on rencontre Sally. Faut quand
pour
même
mémoire,
le signaler,
voilà,
pour mémoire. Et donc, comme tu l'as dit, ça s'inspire du locataire, donc à savoir...
Du lauréat,
qu'est-ce que je raconte?
Oui.
Autant pour moi, c'est lapsus révélateur, peut-être. donc, du lauréat, avec Dustin Hoffman. Dustin Hoffman devient dans le film Kevin Costner, pourquoi pas. Et donc, c'est Jennifer Aniston qui joue Rachel de Friends, encore une fois, on peut le dire, avec assez d'efficacité.
avec l'âge, alors.
Voilà. En tant que fan de la série, on peut dire que ça fonctionne assez bien. Et surtout, il y a Shirley MacLaine. Et donc, pendant une heure, sur un thème assez complexe, je veux retrouver mes racines. Est-ce que ma grand-mère et ma mère ont couché avec le même gars? Est-ce que je suis la fille de mon père ou de cet homme-là? Donc, à la poursuite de ses origines. Et donc pendant une heure, c'est traité d'une manière très enlevée, quasiment irrévérencieuse, dans le sens où c'est quasiment sur trois générations que la relation avec cet homme, cette belle inconnue, va s'installer. Donc c'est assez caustique, dans le sens où la grand-mère, la mère et pourquoi pas la fille. Donc moi j'ai trouvé ça très sympathique. Par contre, dès que le mélo refait surface et que Mark Ruffalo d'une fadesse extrême revient à la charge, c'est vraiment très très mauvais. Mark Ruffalo, oui, qui joue le copain de
Mark Ruffalo, non.
Ouh là là, depuis 30 ans sinon rien, et si c'était vrai, il les enchaîne quand même sévère. Et là,
c'est pour payer les impôts, voyons.
Voilà, et pour faire un in the cut de temps en temps. Non, là, c'était vraiment. Enfin, au bout de 3 quarts d'heure, le rythme tombe vraiment à plat. Et c'est dommage parce que le début était vraiment, vraiment, vraiment très enlevé. Et moi, j'étais plutôt surpris.
Bon, bah, c'est très dommage, surtout qu'il y a Mark Ruffalo qui dépinait très bien. J'y tiens. Donc voilà, deux films qu'on vous conseille pas, tout simplement, La Rumeur Court et La Crypte. Et on enchaîne tout de suite avec le DVD.
Le DVD de la semaine.
Voilà, comme son nom l'indique, Grégoire, tu as vu pour nous un DVD cette semaine. Quel est-il ?
Oui, j'ai vu Les Invisibles de Thierry Jousse, qui est plutôt le DVD de la semaine prochaine, parce qu'en fait, il sort la semaine prochaine, sort le 20 janvier, mais comme ça, vous allez peut-être avoir envie de l'acheter dès sa sortie. Alors, Les Invisibles, c'est le premier long-métrage de Thierry Jousse. Thierry Jousse, ancien critique de cinéma, ancien rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et aussi ancien critique de jazz, de musique et de jazz. Et c'est quelque chose qu'on voit assez bien dans ce film, parce qu'après 3 ou 4 courts-métrages, là, ce film, c'est un film qui s'écoute au moins autant qu'il ne se voit. C'est-à-dire, ça raconte l'histoire de Bruno qui joue avec Noël, qui fait de la musique, lui fait de la musique électronique, Noël joue plutôt de la guitare, ou voire de la guitare préparée, et qui va tomber complètement... Il cherche des sons, un peu, là, ça fait penser à Blowout de Palma, puisqu'on le voit... avec son micro, écouter les gens, marcher dans la rue et capter des sons. Et dans cette recherche de sons, il va aussi sur des réseaux téléphoniques où tout le monde parle en même temps. Et il enregistre ça, il enregistre les voix qui s'entrecroisent. Et là, il va tomber complètement sous l'emprise d'une voix en particulier, qui est la voix de Lisa.
Une belle femme, évidemment.
Ben, il ne sait pas, puisqu'il n'y a que la voix.
C'est une femme.
Donc, la voix d'une femme. Et le film va raconter comment cette voix va... complètement prendre possession de ce personnage, et il va tout faire pour retrouver la femme à qui appartient cette voix. Peut-être on va tout de suite écouter quelle est un peu l'ambiance du film avec ce réseau et les personnages.
Tu m'appelles ou quoi? Tu es ici? Pourquoi?
J'ai noté ton numéro, mais là...
Je veux que tu m'appelles.
Tu cherches quoi, René? Mais j'ai essayé de t'appeler, ça marche pas.
C'est le bordel.
Pardonnez-moi, je sais qu'il est un peu tard, mais vous n'êtes pas souvent là dans la journée. Je tenais à me présenter. Je suis votre nouveau gardien.
Ah bon, bon. Bah, très bien, alors. J'espère que vous allez vous plaire ici.
Merci, c'est très aimable.
Oui, donc là...
On aura reconnu Michael Lonsdale.
Voilà, Michael Lonsdale qui arrive, qui lui apporte dans son rôle de gardien de l'immeuble de Bruno, joué par Laurent Lucas, une partie fantastique qui va se développer un petit peu dans la seconde partie du film, dans la quête de Bruno qui cherche Lisa, qui la rencontre, mais Lisa, il ne la voit que dans le noir d'une chambre d'hôtel, elle arrive après, elle repart toujours avant, et donc il cherche vraiment cette femme. Ce qu'il y a d'intéressant, outre le travail sonore, le travail comment finalement dans les scènes justement d'hôtel où on ne voit quasiment rien à l'écran, c'est justement uniquement le son qui nous guide. Après, il a toujours son Walkman avec son mini disque où il a enregistré ce qui se passait avec Lisa, il le réécoute et du coup il revoit dans la chambre vide, il voit ce qui se passe, donc on voit quasiment le fantôme de Lisa une fois que la lumière est allumée. Ce qui est bien aussi chez Thierry Jousse, c'est que il y a un petit peu un effet de bande, c'est-à-dire que dans ses courts-métrages, dont son premier court-métrage Le Jour de Noël est inclus en bonus DVD, il y avait déjà Noël Achoté, il avait déjà aussi joué dans un de ses courts-métrages suivants. Il y a donc une petite bande aussi avec Philippe Catherine le chanteur, ou Margot Abascal qui jouait déjà dans un de ses courts-métrages qui s'appelait Nom de Code Sacha, aussi une femme qui prenait complètement sous son emprise un personnage joué par ici Philippe Catherine dans ce premier film. Donc le thème de l'obsession était déjà quelque chose qui travaille tout de suite. Elle était visuelle, elle est sonore.
Il manipule comme ça des espèces de thèmes cinématographiques assez forts, les femmes fatales, les hommes sous l'emprise d'une force un peu étrange.
Oui, on voit qu'effectivement, Thierry Jousse a vu énormément de films, mais il reste pas prisonnier de ces thèmes, justement. Ouais. Par ce travail du son, dont il parle un peu aussi dans un autre bonus, avec Noël Achoté, donc, qui joue le rôle de Noël dans le film, mais qui a pris part vraiment au projet, qui avait apporté des morceaux avant le film, et du coup parfois c'est les sons qui nous guident plus que
l'image peut-être
que l'image. Voilà, c'est essentiellement ce que je voulais dire sur ce film Les Invisibles de
qu'on avait beaucoup apprécié, je crois, à sa sortie,
qui était présenté
Radio
à Cannes à la semaine de la critique, il me semble, cette année.
Un film très étonnant, justement, assez très inventif et assez ludique, avec tout ce qu'il apporte à cet univers assez, assez foutraque et en même temps très, très touchant.
Voilà. Point de vue bonus, il y a donc le premier court-métrage de Thierry Jousse qui dure quand même une demi-heure, donc c'est un long court-métrage, plus des entretiens essentiellement qui parlent de soit donc du travail de la musique, soit du travail sur les jeux d'acteurs entre les deux personnages féminins. Donc, et il y a en même temps, enfin un peu plus tard, donc le 30 janvier, la bande originale du film qui sort, qui entrecroise donc des extraits sonores du film et des morceaux faits pour et avec le film, et dont on va écouter un morceau tout de suite.
Merci Grégoire.
Il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de chaque fois. Pas, tu fais rien, c'est moi qui décide.
Même heure, même endroit, même règle.
Les appels. Le requin, c'est là? C'est vraiment un requin ou c'est un gros?
Les appels. Même heure, même endroit, même règle.
Ah.
Voilà, nous écoutions un extrait de la bande sonore des Invisibles, donc un très beau film de Thierry Jousse qui sort en DVD. C'est édité par
OF2B Édition.
Voilà, donc merci Grégoire pour toutes ces infos. Et pour clôturer cette émission, nous allons évoquer un de ces événements comme nous les aimons tant, je voulais dire, dans cette émission. Et Radio Campus en général, c'est-à-dire à la fois un événement festif, un événement jeune, un événement cinéma. Je le vends bien. Et tout ça, c'est Paris tout court. C'est le festival du tout court-métrage, plus ou moins long quand même, c'est pas juste des 2 minutes. Hein. Mais donc, le festival du court-métrage qui se tient actuellement donc, du 10 au 17 janvier à Paris, particulièrement au cinéma L'Arlequin. Donc pourquoi on vous le recommande chaudement, celui-ci, parmi toutes les flopées de festivals de court-métrage qu'il peut y avoir en France, qui sont pas tous recommandables.
Hein. Mais d'abord parce que c'est près de Paris, peut-être.
Parce que d'abord c'est dans Paris, c'est très
dans
près
Paris.
De vous. Donc L'Arlequin, tout le monde va où c'est dans le 6e arrondissement. Peut-être, oui, mais c'est pas vraiment la raison essentielle. Hein. C'est peut-être plutôt par l'ambition de sa sélection, programmation et compétition. C'est donc à la fois, comme je vous le disais, une sélection de films de l'Europe entière et de la France entière. Donc c'est pareil, il y a une compétition française et une compétition internationale, avec aussi une compétition, enfin c'est pas une compétition, mais une sélection de films européens, premiers films européens, et enfin un panorama national français. Donc ça fait des compartiments, tout ça pour dire qu'il y a une foison de premiers films, de jeunes cinéastes, premier, deuxième, troisième film, mais en tout cas ces courts-métrages qui font un peu qui nous montre un peu les jeunes pousses comme ça qu'il faudra suivre à l'avenir et qui sont particulièrement pour avoir vu quelques films programmés, c'est plutôt des choix assez exigeants. Donc premier bon point pour ce festival là une exigence sur le choix et aussi une mise en avant de différents thèmes et de différents axes pour aussi articuler une réflexion sur le court-métrage. C'est pas juste on fourre-tout et puis après on fait un prix du jury. C'est pas ça, c'est plus on vous choisit des films parce que on veut défendre ceci, cela, telle idée du cinéma. Ça, moi, je vais pas me faire l'écho des visions des organisateurs. C'est plutôt à nous de nous faire un petit peu notre opinion sur leur choix. Mais donc, pour faire bref, moi, comme ça, en regardant un petit peu les sélections proposées, je tiens quand même à signaler que dans la compétition francophone, il y a des films assez inratables à mon avis, comme un des premiers films de Valérie Mregen, et son tout dernier aussi qui est présenté dans la compétition internationale. Donc le tout dernier, c'est Pork and Milk, qui se passe en Israël, et un des tout premiers, c'est Manu France. Donc plusieurs films de Valérie Mregen, qui est quand même une des jeunes cinéastes françaises les plus intéressantes, dans un domaine plutôt artiste cinéaste, mais ce qui est à suivre. Et donc son tout premier film, Manu France, c'est peut-être pas son tout premier, mais c'est un de ses jeunes films, passe le mercredi 11 janvier, donc à 21h, et le 15 janvier à 14h. Là, on peut donner les séances carrément. Et moi, je vous conseille aussi la compétition francophone 7, hein, sélection 7, parce qu'il y a deux de mes chouchous dans la même séance, le nouveau film de Thomas Salvador qui s'appelle Deux sorties. Thomas Salvador, c'est un jeune cinéaste français, mais dont tous les courts-métrages sont des petits événements. C'est complètement. Il invente des univers, hein. C'est indescriptible. Il y en a un, c'est Une rue dans sa longueur, donc c'est un homme qui avance dans une rue. Il y en a un autre, c'est Les petits pas, où un homme court avec des enfants, et il se dit pas grand-chose, mais il se passe plein de choses à l'image. Et donc, le même jour que Thomas Salvador passe, Reviens et prends-moi de François Prenant, qui, me semble-t-il, était pas mal dans mon souvenir, que j'avais dû voir dans un autre festival. Bon, bref. Ces films-là, vous les verrez le jeudi 12 janvier à 15h30 et le lundi 16 janvier à 21h, donc c'est tout à l'Arlequin. Mais alors, à côté de ça, je vous parlais d'axes et de programmation particulière. Il y a par exemple une leçon de cinéma d'Alain Cavalier, qui est quand même un cinéaste plutôt rare, un cinéaste français qu'on apprécie beaucoup.
Oui, Alain Cavalier, qui est, qu'on a revu cette année, enfin en 2005, avec, ça y est, je ne trouve plus le titre de son film, mais
c'est pas grave,
ça reviendra. et donc Alain Cavalier qui nous présente une leçon de cinéma le vendredi 13 à 14h à Arlequin.
Le filmeur, c'était
le
son filmeur, dernier
film. Le filmeur, c'est ça, voilà, exactement. Et dans lequel il va s'appuyer sur des courts-métrages qu'il a fait pour nous donner cette leçon de cinéma, notamment son tout premier film, Un Américain de 58, et puis des films plus récents, notamment un film qui s'appelle Portrait, qui dure une demi-heure. On sait que Alain Cavalier s'est filmé dans Le Filmeur, a filmé aussi sa compagne, et filme beaucoup les gens depuis des années.
Oui, donc
il travaille sur le journal filmé. Donc on peut voir Portrait, ça va sortir d'ailleurs en DVD, je crois, dans le semestre. Et son tout dernier film sur Bonnard, l'exposition Bonnard qui a lieu en ce moment à Paris, je ne sais plus dans quel musée. Et donc il a eu une commande là-dessus pour filmer un portrait de Bonnard à travers ce qui était présenté dans l'exposition. Donc c'est sans doute très intéressant, à mon avis.
Connaissant Cavalier, oui.
Et dans la série des tête d'affiche un petit peu de ce festival, parce que il faut qu'il y ait un peu des têtes d'affiche en festival. Il y a aussi deux journées carte blanche,
une carte assez étonnante, hein, je veux dire.
Voilà, avec des choix assez étonnants. Une carte blanche à Bettina Reims, donc la photographe qui présente des films majoritairement américains. D'ailleurs, que des films américains de réalisateurs qui ont ensuite plutôt bien tourné, en tout cas bien réussi. George Lucas, Ridley Scott, Robert Zemeckis. Le premier film d'Orson Welles.
Ah.
Ouais, dont je n'avais jamais entendu parler, que
rareté.
Je n'ai jamais vu, donc une rareté. Le premier Scorsese et Oliver Stone, Steven Spielberg. Donc ça, c'est demain jeudi 12 à 19h à l'Arlequin. Et l'autre, carte blanche, elle est au chanteur Dominique A.
Encore plus excitante, à mon avis.
Voilà. Alors là, je connais moins les films, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même un court-métrage Antoine Desrosières qui avait fait un film dont je ne me souviens plus le titre, mais dont Dominique A avait composé la BO il y a quelques années.
Donc des
affinités électives. Et il y a aussi un film de Luc Moulet qui s'appelle Bar, qui doit dater des années 60, il me semble, début des années 70, qui est filmé dans le métro parisien. Il filme les gens qui essayent de gruger dans le métro. C'est un film très drôle
et d'actualité.
Donc, voilà. Et ça, c'est samedi 14 à 14h, toujours à l'Arlequin.
Et d'autres initiatives de ce festival assez foisonnant. On peut en parler avec toi, Vincent. Il y a, par exemple, une nuit du court-métrage, Nuit OVNI, comme elle s'appelle. Donc,
voilà.
Qu'est-ce que ça donne à ton avis ?
Mais en fait, moi, je la rattache parce que qui dit festival dit réflexion sur le support, donc le court-métrage et le cinéma dans le court-métrage. Moi, je le rattacherais à une table ronde qu'il y a sur le passage du court-métrage au long-métrage. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Tout simplement parce que dans cette nuit du cours sont rassemblés tous les films, on va dire, agités du bocal ou de la caméra, des ovnis, des films où on ne sait pas trop où les mettre. Et moi je me dis, mais pourquoi on sait pas trop les mettre, pourquoi on les retrouve, ce genre de film ne se retrouve pas souvent en compétition.
Et oui, ils sont toujours mis dans cette petite catégorie,
voilà,
à part.
Souvent des courts-métrages fantastiques ou potentiellement d'action ou de comédie souvent aussi. Mmh. Et de comédie parfois lourdingue, mais de comédie quand même. Et je trouve ça dommage parce que en fait il y a une propension à formatiser le court-métrage. D'ailleurs, je ne me rappelle plus, je crois que c'était à Clermont-Ferrand il y a un ou deux ans, c'était, je crois, le comédien Almeric.
Oui, deux ans, ouais. Oui, Mathieu Amalric, qui était président du jury, qui avait, avec son jury, refusé de donner un prix parce qu'il trouvait que les courts-métrages étaient trop formatés.
Voilà, et moi, j'ai l'impression que le court-métrage devient socialisant, en fait, dans le sens où il nous faut un thème phare. De mes dernières années de court-métrage, c'est que ça soit le viol, que ça soit les rapports familiaux, etc. Enfin, on en voit, et après on en a par-dessus la tête.
Oui, il y a un peu l'impression d'avoir quatre scénarios et
voilà.
Sur le film.
Et en fait, pourquoi ? Parce que le court-métrage est devenu en fait une carte de visite. Dans le sens auprès des producteurs, des grands producteurs, qui recherchent donc un auteur qui pourrait faire plus tard un film typiquement français dans tout ce que ça a le plus négatif. Tout le cinéma français se résume pas à ça, mais il y a un peu de ça par moment. Et donc c'est intéressant d'écouter ce qui va se passer à la Table Ronde, de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour soit des jeunes cinéastes qui veulent devenir des grands réalisateurs, ou alors ceux qui sont passés au long métrage. Donc moi, je trouve ça vraiment très très intéressant à suivre.
Donc toi, tu nous recommandes donc cette table ronde sur le passage du cours au long métrage et pour suivre la nuit du cours, Nuit OVNI. Effectivement, bon mélange. Donc, Extérieur Nuit, c'est donc fini rapidement. On vous conseille donc Paris tout court. Hein, pour plus d'informations, www.paristoutcourt.org. Je remercie Ilkay qui était à la réalisation. Je remercie Vincent et Grégoire et Julien par MP3 interposé qui était avec nous. Et je vous dis à la semaine prochaine.
Merci Laurence.